C'est l'info, votre double page info du week-end, Martin Arnaud.
Bonjour à tous et bienvenue dans C'est l'info, l'émission qui analyse chaque semaine l'ensemble de l'actualité. Au sommaire cette semaine, la victoire à Raqqa des forces arabo-kurdes soutenues par les États-Unis signe la fin de la capitale syrienne de l'organisation État islamique. Nous parlerons également donc du Kurdistan, de la Turquie, de l'Iran, de l'Arabie Saoudite, du Qatar, bref, de tout ce qu'il se passe en ce moment au Moyen-Orient avec un spécialiste, Roland Lombardi. La Chine, et depuis mercredi, Xi Jinping écrit les lignes de l'avenir chinois en ouverture de ce 19e congrès du Parti communiste. Grand reportage s'intéresse au mythe du nouvel empereur rouge, celui que l'on compare désormais à Mao Tse-tung. Et puis nous parlerons de l'affaire Harvey Lee Weinstein. Vous entendrez l'opinion de Mickey Monstre sur ce sujet. Et puis également, comme chaque semaine, l'ensemble de vos chroniques. Un œil sur les médias, ici Londres et l'IT News. Soyez les bienvenus, c'est parti pour la 8e émission de C'est l'info.
C'est l'info, l'invité de la semaine.
Nous recevons à présent Roland Lombardi. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes historien, connu pour être un consultant et un analyste spécialiste des relations internationales, particulièrement sur la région du Maghreb et du Moyen-Orient, ainsi que des problématiques de géopolitique, de sécurité et de défense. Et si l'on vous reçoit aujourd'hui dans C'est l'info, c'est pour parler de la situation autour du Moyen-Orient et tout d'abord, évidemment, l'État islamique qui a perdu mardi 17 octobre la ville de Raqqa, son principal bastion en Syrie, après des mois de combat contre des forces soutenues par la coalition dirigée par les États-Unis qui ont transformé cette ville du nord du pays en un champ de ruines. Pourquoi Daesh perd-il du terrain en ce moment même, Roland Lombardi?
Alors Daesh, la chute de Daesh était prévisible. On était quelques observateurs à annoncer dès 2014, lors des premières victoires de l'État islamique en Irak et en Syrie, que ça cela ne serait qu'une question de temps. Effectivement, ces derniers jours, nous avons vu la chute de Raqqa, mais aussi en Irak, Daesh recule énormément. Mais tout simplement parce que les forces liées contre l'État islamique sont assez importantes. Il y a les forces régionales, Iran, Irak, et puis il y a surtout les parrains, l'Iran, la Russie et aussi, bien sûr, la coalition internationale menée par les États-Unis et la France. Alors, la chute de Raqqa, on peut dire que c'est... on peut s'en réjouir, bien sûr, mais c'est aussi, pour moi, c'est un peu une victoire à la Pyrrhus, parce que le fond du problème va demeurer. Alors, il va demeurer pourquoi ? Parce que Daesh va muter, le terrorisme risque de s'amplifier à l'extérieur de ces territoires, notamment en Afrique, on a vu ces derniers temps, en Asie, et bien sûr en Europe, qui est le ventre mou de l'Occident. Et puis même lorsque l'État islamique, en tant qu'entité territoriale, sera définitivement vaincu, il y aura d'autres mouvements qui risquent de voir le jour. Et puis il faut rappeler qu'Al-Qaïda existe toujours, donc c'est pas encore gagné, si on peut dire comme ça. Et surtout, le problème essentiel, c'est qu'il va demeurer encore pour quelques années le terreau de ces mouvements, c'est-à-dire les problèmes socio-économiques, la misère, la déstabilisation de la région, mais aussi et surtout l'idéologie qui est le plus important et le plus dangereux pour, bien sûr, les musulmans et aussi pour les occidentaux, et qui est l'idéologie salafiste, l'islamisme conquérant et de combat, et qui en fait l'idéologie du wahhabisme. Et donc c'est cette maladie de l'islam qui va être le plus dur à vaincre, et c'est pas gagné, puisque ça passera, à mon avis, ça passera d'abord par un aggiornamento dans l'islam, et ça c'est une autre histoire.
Et alors ce que vous êtes en train finalement de nous expliquer, Roland Lombardi, c'est que voilà, même après ces reculs à Mossoul, à Raqqa, eh bien Daesh, en surfant sur des divisions locales, va pouvoir continuer à s'imposer dans d'autres régions du monde. Mais néanmoins, quels sont les moyens réels de l'État islamique actuellement?
Ah ben, les moyens, d'abord les moyens financiers, on a tous ce événement depuis quelques années. On sait que il y a eu beaucoup de sommes récupérées par l'État islamique, soit par les impôts, entre guillemets, l'impôt qui était plutôt du racket, les prises de banques comme à Moussoul, avec des millions de dollars tombés dans ses poches. Et au niveau les moyens humains, c'est-à-dire il y a encore, on le voit en Europe, certaines personnes qui sont séduites par le discours idéologique de tous ces mouvements, hein, Daesh mais aussi Al-Qaïda, et donc ça peut encore poser pendant encore un bon petit moment de gros problèmes.
Et alors, pour gagner contre Daesh, faut-il mener la guerre sur un seul front? Les puissances occidentales et régionales impliquées dans le conflit devraient-elles définir Daesh comme leur ennemi numéro un?
Oh, c'est officiellement, c'est pas ce qu'on peut observer, mais tacitement, c'est ce qui se passe. Donc,
D'accord.
Oui, j'ai toujours dit que l'intervention musclée, l'intervention militaire était nécessaire, mais encore une fois, je reviens, c'est le fond du problème et l'idéologie qui est véhiculée par ces mouvements qui pose problème.
Et alors justement, les territoires qui sont en train d'être repris par l'armée irakienne, mais aussi par Bachar el-Assad, quid voilà de ces territoires? Comment ces terres vont-elles évoluer?
Alors, à plus ou moins long terme, il risque de demeurer quelques poches de combat, mais comme je le disais tout à l'heure, ce qui risque de se passer, c'est que certains djihadistes vont retomber dans la clandestinité et lancer des attaques terroristes, comme on l'a vu en Syrie dernièrement, à Damas, ou en Irak aussi ces dernières semaines.
Alors après avoir parlé un petit peu de Daesh et de Daesh qui justement arrive dans le nord de l'Irak, la question kurde est finalement revenue sous les feux de l'actualité internationale depuis maintenant 3 ans. Les Kurdes, sunnites à 80%, sont alors apparus comme une des rares forces régionales déterminées à combattre le djihadisme, mais divisées entre mouvements concurrents. Et entre l'Irak, la Syrie, la Turquie et l'Iran, leurs voix contradictoires restent difficiles à déchiffrer. D'où vient, Roland Lombardi, la revendication kurde?
Les Kurdes on peut le dire comme ça, se fondent sur la déclaration célèbre comme quoi un peuple a le droit de disposer de lui-même, puisque c'est un peuple ethniquement homogène, sunnite à majorité, bon, comme vous l'avez dit, pas mal divisé au niveau politique, mais voilà, c'est des revendications très anciennes, et encore une fois, on s'aperçoit que les Kurdes sont de nouveau les victimes de l'histoire et de l'actualité, puisque ils sont les victimes du double jeu, de la lâcheté des grandes puissances qui se sont servies d'eux, justement, comme vous le disiez encore une fois, contre l'État islamique, puisque c'était le fer de lance et les troupes au sol si efficace sur le terrain. Mais voilà, la réelle politique va reprendre le dessus, car en définitive, personne dans la région, et les grandes puissances sont très ennuyées avec ça, ne veulent un Kurdistan indépendant, c'est-à-dire en premier lieu les Iraniens, les Irakiens, le régime de Bachar, les Turcs ne veulent pas d'un Kurdistan indépendant. Et puis, est-ce vraiment la bonne solution pour les Kurdes, puisque c'est un territoire enclavé, et donc c'est pas évident de trouver une solution définitive quand on sait qu'ils sont dépendants de l'eau turque et iranienne, le pétrole aussi, donc c'est délicat.
Oui, mais alors toutefois, depuis désormais donc depuis 2005, le Kurdistan est une région autonome d'Irak qui possède un gouvernement régional dont son président est Massoud Barzani. Et c'est de cette région autonome qu'a été organisé le 25 septembre dernier un référendum historique qui s'est soldé par une victoire écrasante du oui à l'indépendance. On est ainsi face à une succession presque logique d'événements, non?
Oui, alors c'était normal, on peut dire, du point de vue du gouvernement kurde de déclencher ce référendum, vu la publicité qu'ont faite les Occidentaux sur les combattants peshmerga qui ont aidé à combattre les djihadistes en Syrie et en Irak. Donc c'était une suite logique, mais je pense qu'il va falloir raison garder, même du côté kurde, et qu'on va rester sous une forme d'autonomie, qu'on n'ira pas jusqu'à l'indépendance. Et on l'a vu ces derniers jours avec Kirkuk, où les soldats kurdes se sont retirés pratiquement sans combattre face à l'armée irakienne soutenue par les milices chiites.
D'accord. 25 à 35 millions, hein, c'est le nombre de Kurdes que l'on dénombre sur un territoire donc qui s'étendrait sur un demi-million de kilomètres carrés. Dans le même temps, donc le président turc Recep Tayyip Erdogan, le président iranien Hassan Rouhani se sont rencontrés début octobre, visiblement pour aller à l'encontre des Kurdes. Pourquoi Turquie et Iran s'allient contre cette indépendance des Kurdes?
Il faut d'abord rappeler que la Turquie et l'Iran sont les deux grandes puissances régionales. L'Iran, on l'a vu ces dernières années jusqu'à aujourd'hui, est en pleine réussite géopolitique, on peut dire, puisque tous ses objectifs sont atteints. Ils sont les grands gagnants de la guerre en Syrie et en Irak. À l'inverse, la Turquie, elle, a toujours eu des ambitions géopolitiques dans la région, mais à partir du printemps arabe, elle a eu une politique de soutien, on va dire, pour parler rapidement, de soutien aux rebelles et plus largement aux milices djihadistes. Mais face à l'échec flagrant de sa politique et surtout aux gros problèmes internes, je vous rappelle le coup d'État en juillet 2016 à Ankara, elle s'est ravisée et donc a complètement changé sa politique et a opéré un virage 180 degrés en se réconciliant avec la Russie, en se rapprochant de l'Iran, notamment pour ses propres intérêts.
Alors en Turquie, évidemment, les choses sont complexes. En avril dernier, les électeurs turcs ont approuvé d'une courte majorité, 51,4%, le projet de révision constitutionnelle renforçant les pouvoirs du chef de l'État. Ce projet permet au président Erdogan d'envisager de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2029. Plus récemment, le président turc a annoncé le lancement d'une importante opération militaire de l'armée syrienne libre dans la province d'Idlib avec l'appui de l'armée turque. Et dans le même temps, la Turquie entretient de complexes relations, que ce soit avec l'Union européenne, qu'elle envie, la Russie et évidemment les États-Unis. Que veut réellement Recep Tayyip Erdogan et que veut surtout la Turquie?
Oui, je rappelle aussi qu'elle fait partie, que c'est un membre de l'OTAN.
Et
Donc,
membre de
c'est quand
l'OTAN,
même un
évidemment.
membre important de l'OTAN. Elle veut sauver ses prises, c'est-à-dire être un interlocuteur dans la région, puisque jusqu'à l'intervention, depuis l'intervention russe en Syrie et l'entrée de jeu de Moscou dans la région, il était en perte d'influence. Et donc c'est pourquoi il y a eu ce revirement de la part d'Ankara pour pouvoir encore une fois essayer de peser sur le cours des événements en s'accordant avec les Iraniens, en ayant des accords tacites avec le régime syrien et bien sûr avec Moscou.
Et oui, c'est ce qui explique ce double langage, droit de l'hommiste vis-à-vis de l'Europe et de l'Occident et l'islamiste radical à l'intérieur. Hein.
C'est exactement ça, c'est exactement ça. Et bon, il ne faut pas se bercer d'illusions. Erdogan a repris en main, depuis justement le coup d'État de 2016, a repris en main le pays. Il risque de l'avoir pour un bon moment. Pour un bon moment. Voilà, donc. C'est pour cela que, justement, face à ces problèmes internes, avec le problème kurde aussi, que vous évoquiez tout à l'heure, et sa perte d'influence, il essaye de redevenir un acteur incontournable. Bon, il est quand même arrivé à CFM, mais voilà, il est très affaibli. Alors, contre sa force, tout en sachant qu'il est affaibli sur le plan interne et sur le plan régional. Et c'est pour ça qu'on peut observer et assister à ce bouleversement d'alliance, à cette évolution dans les rapports entre les pays de la région.
Et alors, de nombreuses voix militaires en Turquie indiquent que la Turquie est un pays surmilitarisé et surarmé. Est-ce réel?
Ah oui, l'armée turque est, je crois, la deuxième de l'OTAN.
D'accord.
Si je ne dis pas de bêtises, non, c'est une grosse armée très équipée par les Américains, justement. Et solide, c'est une armée efficace. C'est aussi un des leviers de ses nouvelles orientations diplomatiques.
Et au Moyen-Orient, un acteur est de plus en plus présent sur cette scène qui bouge beaucoup. Hein, depuis le début de la guerre en Syrie, la Russie a en effet renforcé son statut international. L'intervention militaire de Moscou en appui du gouvernement syrien, Moscou qui défend tout de même sa base navale de Tartous hein, depuis la fin de septembre 2015, ainsi que son rôle dans la relance des pourparlers de Genève en février 2016 et dans le cessez-le-feu qui en a découlé, en sont les deux principales manifestations les plus notoires. Ce niveau d'engagement élevé est tout de même venu contredire l'idée reçue d'un désengagement de la Russie post-soviétique du Moyen-Orient.
Ah oui, absolument. Et on peut même dire à l'instant T, à l'heure où on se parle, que Vladimir Poutine est arrivé à réaliser tous les projets et les rêves géopolitiques des tsars et des lignes soviétiques, puisqu'actuellement, la Russie est au Moyen-Orient comme au Maghreb. A atteint un niveau de leadership jusqu'ici absolument flagrant. Quoi. Donc cela est dû à beaucoup de points, puisque là je ferai un parallèle avec la diplomatie française. La diplomatie russe, elle n'est pas basée sur des visions idéologiques, elle était basée sur le réalisme de la réelle politique. Non, elle n'était pas basée aussi sur. La Russie fait de bonnes affaires au Moyen-Orient, mais ce n'était pas basé sur une diplomatie économique. C'était surtout basé sur. Je rappellerai une phrase de Napoléon qui disait les pays font la politique de leur géographie, et ben là, je paraphraserai. Napoléon disant que les Russes font la politique de leur démographie. Je rappelle qu'il y a 20% de musulmans dans la population russe et que l'objectif principal, à mes yeux, était de contenir la montée de l'islam politique au Moyen-Orient. Et pour cela, elle s'est appuyée sur les potentats locaux comme Bachar el-Assad en Syrie, comme Erdogan, dans une moindre mesure, puisque Erdogan est un islamiste, mais bon. Comme au Caucase avec Kadyrov en Tchétchénie, avec le message clair et compréhensible par tous, et qui était vous gérez vos pays comme vous voulez, mais nous, ce qu'on ne veut pas, c'est de l'islamiste à nos frontières, puisque les frontières de la Russie sont très proches. Et donc, basé sur ce paradigme, la politique russe s'est révélée cohérente et surtout efficace.
Et en quelque sorte, la Russie a damé le pion ces derniers mois aux États-Unis dans ce dossier syrien et s'affiche donc comme une alternative pour ces pays-là à la vision occidentale des relations internationales. Le fait que la Syrie soit active sur le dossier du Moyen-Orient suffit-il à prouver l'existence d'une stratégie plus globale au Kremlin?
Ah oui, clairement, hein. clairement, puisque la Russie, en apportant son soutien contre vents et marées à l'ONU, contre les condamnations de la communauté internationale, en apportant son soutien au régime de Bachar, elle a prouvé sa fidélité. Mmh. Et donc ça compte beaucoup au Moyen-Orient. Elle a donné sa parole, elle a tenu jusqu'au bout, et donc ça diffère un peu des positions occidentales, américaines et même françaises qui sont souvent contradictoires, incohérentes Et c'est un principal gain de la Russie, puisqu'actuellement, la Russie, je le rappelle, parle à tout le monde. Elle est alliée de l'Iran, elle est alliée au régime de Bachar. Dernièrement, le roi d'Arabie Saoudite s'est rendu, qui était le grand adversaire géopolitique dans la région, s'est rendu à Moscou. C'était une visite historique. Des contrats, bien sûr, ont été signés, des contrats économiques. Mais on sent que la Russie devient incontournable. Et dernièrement, on le voit en Syrie avec Israël. En dépit des alliances avec l'Iran, le régime de Bachar, on le dit peu, mais les rapports avec Israël sont très bons. Et en quelque sorte, la Russie est devenue le juge de paix de la région. Et encore une fois, c'est un exemple en Syrie, puisque le ciel syrien est russe et Israël se permet de bombarder quasiment, depuis ces quelques temps, quasiment quotidiennement, des bases ou des transferts d'armes du Hezbollah en Syrie en toute impunité, parce que les généraux des états-majors se consultent quotidiennement. Mmh.
Le Qatar à présent, Roland Lombardi, le 5 juin dernier, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, mais aussi l'Égypte et le Yémen ont annoncé la rupture de leurs relations diplomatiques avec le Qatar. Ces cinq pays ont aussi décidé de prendre des mesures drastiques pour isoler leurs riches voisins de 2,2 millions d'habitants qui se targuent de jouer un rôle régional et d'avoir été choisis pour organiser le Mondial 2022 de football. Où ces tensions trouvent-elles leurs racines ?
Alors, ce qui est un peu croquignolesque, pour employer un mot à la mode, c'est que lorsque l'Arabie Saoudite, qui est à la tête de des pays qui ont condamné le Qatar en juin dernier, accuse le Qatar de soutenir le terrorisme, c'est un peu comme le chameau qui se moque de la boue du dromadaire. Car on sait que l'Arabie Saoudite est le phare du totalitarisme islamiste sunnite, un des régimes les plus autoritaires, les plus obscurantistes et les plus rétrogrades au niveau religieux et sociétal dans le monde. Et donc ça fait, si ce n'était pas aussi dramatique, ça ferait sourire. Mais on en parle peu, mais ce qui s'est passé, c'est que le Qatar était très influent, notamment au début des printemps arabes, en soutenant les frères musulmans en Syrie, en Tunisie, enfin dans tout le monde arabe. Mais lorsque les Qataris ont été plus malins, puisqu'ils ont compris que dès l'intervention russe en Syrie, ils avaient perdu la partie. Donc eux, dès septembre 2015, ils ont compris qu'ils n'avaient pas les épaules pour jouer un rôle géopolitique et se sont consacrés à organiser notamment la Coupe du Monde 2022, la Coupe du Monde du foot de foot en 2022, et aussi essayer de redorer son blason dans les opinions publiques occidentales qui avaient été détériorées. Donc ça fait déjà un petit moment que le Qatar, lui, est sorti du jeu et a changé sa politique, comme je le disais tout à l'heure pour la Turquie, a changé sa politique depuis donc 2015. Et ce qui se passe avec l'Arabie Saoudite, c'est que, alors là aussi on en parle peu, mais à mon avis il est en train de se passer quelque chose d'important. L'Arabie Saoudite, c'est une sorte de perestroïka, à mon sens, initiée par le fils du roi Mohamed Ben Salman, qui est clairement basé sur, là aussi, un revirement total de la politique saoudienne de ces dernières années et de ces derniers mois, et qui est une lutte contre l'idéologie radicale et l'islam politique. Alors là, il le fait notamment lui aussi par son échec, comme la Turquie et le Qatar, son échec de sa politique au Moyen-Orient. Il le fait aussi sous une pression inédite de la nouvelle administration américaine de Trump, qui est quand même en pointe dans ce domaine-là. Et il le fait surtout aussi pour sa propre survie politique, puisque ces mouvements représentent un danger pour le régime saoudien. Et c'est pour cela qu'on voit cette évolution, cette inflexion des Saoudiens aussi dans la région. Mais bon, pour en revenir à la crise du Qatar, c'était surtout pour donner des gages, justement, à Washington, je pense. Et puis, pour essayer aussi de reprendre un peu de leadership perdu pour les Saoudiens au Proche-Orient. Mais je pense que ça n'ira pas plus loin et que ça finira sûrement comme dans un spectaculaire banquet de réconciliation, comme on a secret les riches besoins du Golfe, et tout ça sous la houlette de Washington.
Alors justement, vous évoquiez il y a quelques secondes l'Arabie Saoudite, hein, créée en 1932 sur une alliance politico-religieuse inédite. L'Arabie Saoudite est méconnue de l'Occident, vous le disiez, et elle suscite fantasmes et inquiétudes. Le nouveau roi, donc Salman, investit le 23 janvier 2015.
Il n'est pas encore roi, hein. Il va devenir roi, mais il n'est pas
d'accord.
Encore roi.
Ah, toutes mes excuses. Alors, ce futur roi donc a proposé il y a quelques mois le plan Vision 2030, un plan qui a pour objectif de privatiser, de diversifier, d'ouvrir l'économie de l'Arabie Saoudite. Quels sont les atouts économiques pour sortir du tout pétrolier?
Alors, c'est ça le gros problème. Alors, c'est un plan ambitieux, mais c'est clair, il y a des réformes qui ont été engagées, mais ça a du mal à se mettre en place. En fait, la volonté du futur roi est de sortir du tout pétrole et donc en diversifiant l'économie saoudienne. Alors, elle a des atouts. Il y a un fonds, je ne trouve plus le mot, un fonds créé aussi par le prince. Qui représente des milliers de millions de dollars. Donc, c'est quelques atouts, mais là aussi, c'est une révolution économique qui peut avoir des répercussions au niveau social, puisqu'il y a aussi une volonté de changement complet de la.
Et oui, chez les femmes.
Des habitudes sociologiques saoudiennes. Et c'est pour cela qu'il y a quelques tensions en ce moment sur le territoire saoudien.
Et oui, le droit des femmes évolue. Celles-ci ont pu voter il y a un an aux élections municipales. Elles peuvent désormais conduire. L'Arabie Saoudite souhaite donc se moderniser et s'ouvrir donc également à la jeunesse, en quelque sorte.
Ah, tout à fait. C'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est clair que le prince Salman veut changer les choses, donc encore une fois parce qu'il a la pression américaine dans ce domaine-là, mais c'est aussi parce que c'est pour sa propre survie politique. Alors en ce moment, là encore, on en parle peu, mais il y a une véritable nuit des lions cimetières à Riyad, puisque les émirs les plus influents et les plus dangereux et qui ont souvent été les financiers secrets de certains groupes plus ou moins dangereux sont mis sur la touche, exécutés. On va dire, ils disparaissent, ils sont mis en résidence surveillée, donc il y a une grosse répression qui a lieu en ce moment. Et puis il y a aussi, dernièrement, il y a eu un millier d'imams radicaux qui ont été arrêtés. Donc il y a une réelle volonté de changement. Mais encore une fois, ce ne sont pas pour les beaux yeux de l'Occident, c'est surtout pour sa propre survie politique, parce qu'il sait très bien au niveau économique qu'il faut sortir du tout pétrole, et au niveau géopolitique, avec encore une fois l'influence iranienne et surtout russe, qu'il faut montrer patte blanche et peut-être mettre fin à cette politique qui date depuis la fin des années 60, qui a été très, très néfaste pour le monde arabe dans la région.
Eh bien voilà, le chemin est encore long et plus globalement, le Moyen-Orient bouge et bougera encore pour les prochaines décennies, n'est-ce pas, Roland Lombardi?
Merci.
Merci beaucoup en tout cas d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes donc historien, spécialiste de la zone du Moyen-Orient. À très bientôt dans C'est l'Info.
Merci.
Tous les 5 ans, le rituel se répète à Pékin. 2300 délégués du Parti communiste se réunissent pour nommer une nouvelle équipe dirigeante. Le 19e congrès, qui débutait ce 18 octobre 2017, devait reconduire le secrétaire général et président chinois Xi Jinping pour un deuxième mandat. Mais qui est cet homme qui dirige le pays le plus peuplé du monde, surnommé le nouvel empereur rouge, pour avoir accumulé autant de pouvoir que Mao Zedong? Xi est présenté par la propagande comme un enfant du peuple. Conformément au récit originel du parti, il puiserait ses forces dans les 7 années passées en exil forcé dans un village pauvre à un millier de kilomètres au sud-ouest de Pékin. Lanjiahe, un village aujourd'hui devenu véritable lieu de pèlerinage pour les 89 millions de membres du Parti communiste. En tout cas, la vie du numéro 1 chinois est érigée en modèle pour toute la Chine et le culte de la personnalité bat son plein. Reportage de Heike Schmidt. En Chine.
Xi Jinping, cet homme discret et méconnu, a bâti sa légende dans le village de Liangjiahe. Cette légende est celle d'un jeune homme qui s'est retroussé les manches pour labourer la terre aux côtés de braves paysans dans une misérable campagne.
Lorsque j'avais affronté des conflits ou des difficultés, ou lors d'une nouvelle mission, j'ai toujours pensé à mes frères, mes sœurs et mes villageois qui labouraient dur pour cultiver les champs et pour faire paître les troupeaux sur les collines de la Terre Jaune du nord-ouest du Shaanxi.
Une expérience qui aurait permis à ce fils de l'aristocratie communiste de devenir un homme proche du peuple. C'est l'histoire d'un prince rouge dans la peau d'un paysan. En 1969, Xi a 15 ans. En pleine révolution culturelle, son père, Xi Zhongtun, un frère d'armes de Mao, est victime des purges politiques. Considéré comme jeune instruit, le fils de ce héros de la révolution qui a grandi à Pékin dans les résidences réservées aux hauts dirigeants est envoyé à la campagne pour être rééduqué. De cette expérience, l'école du comité central du Parti communiste a tiré un livre de 452 pages. Sur la couverture, l'adolescent Xi, souriant, un paysan parmi les paysans, avec sa chemise déboutonnée et sa sacoche en bandoulière. Dans cette librairie à Pékin, le livre est exposé en bonne place, sous une affiche en lettres jaunes sur fond rouge qui salue les délégués du 19e congrès du Parti communiste. Ce client est conquis.
Je ne suis pas membre du Parti communiste, mais grâce à cette lecture, je saurai comment il a gravi tous les échelons. Comment il dirige notre pays, quelles difficultés il a surmontées. Ce livre nous encouragera à suivre son exemple.
Un mois après sa sortie, le recueil de témoignages des paysans qui ont partagé la vie de Xi pendant son exil forcé s'est déjà vendu à 3 millions d'exemplaires, rapporte la presse officielle. L'historien Tan Hua croit connaître le secret de ce succès.
Si ce livre se vend bien, c'est parce qu'il porte une énergie positive. Il raconte comment Xi a su préserver ses nobles idéaux en toutes circonstances. Et comme lui, chaque personne doit assumer une mission importante pour le bien de notre pays, notre société, notre famille. Ce livre transmet l'énergie positive aux jeunes pour forger leur destin et pour qu'ils acquièrent les mêmes talents, pour qu'ils poursuivent les mêmes nobles idéaux.
La vie de Xi Jinping est érigée en modèle pour toute la Chine, se réjouit cette lectrice et fervente partisane du numéro 1 chinois.
Je suis membre du Parti communiste. Nous organisons régulièrement des cours pour apprendre les citations les plus importantes du président. Je m'inspire aussi de la pensée de Xi pour éduquer mon enfant. Cela lui permettra d'être ancré dans un concept de valeur. Les enfants doivent être la fierté de la nation.
Faute d'autorisation pour participer à l'un des cours organisés par le parti, nous partons alors sur les traces du nouvel empereur chinois, le livre à la main, direction le Shaanxi, à un millier de kilomètres de Pékin. Première étape, Yan'an, ou la terre sacrée de la révolution chinoise, selon le jargon du parti. Car c'est ici que Mao s'est retranché avec ses partisans, dont le père de Xi, après la longue marche. C'était en 1935, avant la victoire de 1949. À 1h30 de route de Yan'an se trouve Liangjiahe, le village où le mythe fondateur Xi Jinping commence, niché sur le flanc d'un plateau poussiéreux de l'Eus, la Terre Jaune.
<t'en>
Les passagers de la navette qui nous amène au village sont tout excités à l'idée de découvrir la grotte dans laquelle le camarade Chi a vécu.
Nous sommes presque une centaine de personnes. Nous venons d'apprendre la constitution du parti, l'histoire du parti et les citations de Xi Jinping. C'est pour devenir des membres excellents et loyaux du parti communiste. Là, nous allons visiter le village. Ensuite, il faudra écrire un devoir sur ce que nous avons appris ici.
Personne ne doit toucher à la légende si soigneusement bâtie du président chinois. Les agents y veillent farouchement. Un peu plus loin, des visiteurs entrent dans l'étroite grotte où Xi Jinping a dormi sur un matelas élimé, comme s'ils entraient dans un temple. Le regard fixé sur la photo du jeune Xi, cet homme ose répondre à nos questions malgré l'agent qui braque sa caméra sur lui.
Xi était jeune, mais il pensait déjà au peuple, au futur de sa patrie. Je voudrais savoir comment il a vécu ici. Depuis qu'il est devenu notre président, il a contribué à notre pays et au monde. Son destin s'est forgé ici, à la base. Cette expérience lui permet aujourd'hui d'être au sommet pour développer la Chine. Je voudrais m'inspirer de son exemple pour être plus proche du peuple et j'appliquerai ce que j'ai appris ici dans mon travail.
Yang Tiare est aujourd'hui un véritable lieu de pèlerinage. Des cars amènent des flots de visiteurs. Chaque jour, entre 1000 et 7000, rapporte en tout cas la presse d'État. Du pain béni pour les villageois, voici la version officielle.
Les villageois ont pu déménager dans de nouveaux appartements. Ils vivent du commerce et entretiennent des vergers de pommiers et des fermes modernes. Ce village est devenu une base pour la formation des cadres et membres du Parti communiste et aussi le village du tourisme rouge.
Le président est adulé ici. Souriant face à la caméra, il goûte au plaisir de ce bain de foule. Zhang Yifan, historien et fin connaisseur des coulisses du parti qui gouverne la Chine depuis 1949.
C'est cette image qu'il veut véhiculer auprès des petites gens. Ce n'est en revanche pas cette face qu'il présente au cadre de son parti. Face à ses pairs, il est austère et souhaite qu'ils aient peur de lui. Mais les petites gens, eux, sont censés l'aimer. Pourtant, leur vie ne s'est pas vraiment améliorée.
La propagande d'État fait son effet. Bon nombre de Chinois parlent de Qi Dada ou l'oncle Qi. Sur l'une des façades en pierre du village, on retrouve l'effigie de Qi au centre d'une fresque murale montrant la voie à des paysans éblouis, donnant l'impression qu'un culte de la personnalité est en train de naître. Vrai ou faux, Zhang Yifan.
J'aperçois à présent une seconde campagne massive pour créer un dieu vivant depuis celle de l'époque maoïste, mais l'effet n'est pas le même. À l'époque de Mao, la Chine était un pays fermé. Nous n'avions aucun moyen d'obtenir des informations de l'extérieur. Mais depuis, nous sommes entrés dans l'ère d'Internet. Donc seulement des gens stupides seront influencés par cette campagne censée fabriquer un nouveau dieu. Beaucoup de gens ne disent rien, mais ils comprennent ce qui se passe. Cette propagande n'aura donc pas l'effet désiré. Pourtant, le comité central du parti voudrait en effet que Xi soit considéré comme un dieu. Sans nul doute, Xi aussi veut que les masses le vénèrent comme un dieu.
À l'université de Yan'an, les étudiants apprennent à aimer le pays, le parti et son secrétaire général tout puissant. Et cela fonctionne.
Comme le parti communiste est le noyau dur de la Chine, nous devons suivre le parti communiste. C'est ce qui nous permet de grandir et de devenir les dignes héritiers de la patrie. Nous serons le sang frais au sein de notre parti communiste pour qu'il soit plein de vitalité.
En treillis de camouflage, la casquette de l'armée vissée sur la tête, Zhe Yuanlong, 20 ans, vient de terminer ses exercices militaires dans le stade du campus. Face à notre microphone, ses camarades et lui se mettent spontanément au garde à vous.
Nous avons appris en marche, repos, et à joindre les talons en signe de salutation. Ce n'est pas trop dur, parce que j'ai suivi les mêmes entraînements militaires à l'école secondaire et au lycée.
Aucune fausse note ne vient perturber la légende, sauf celle-ci. Sur le parking, un jeune employé aux lunettes rondes et en basket nous demande d'échanger quelques mots en anglais pour que ses collègues ne le comprennent pas et à l'abri de leur regard derrière le car qui s'apprête à partir.
Nous avons voulu faire une excursion pour nous amuser, mais on était obligé d'y mettre une dose de politique. Alors nous avons passé 12 heures par jour dans ce bus pour venir ici. Vraiment, je n'aime pas ça. Ce lieu est un symbole. Ok, on m'appelle, je dois partir. Une minute, s'il vous plaît. Alors ils veulent faire de ce lieu un symbole pour prouver que les petites gens simples peuvent arriver au sommet de l'État. Mais c'est faux. On n'est pas arrivé là-haut parce qu'il a travaillé ici, mais parce qu'il est le fils de quelqu'un. C'est un prince rouge. Voilà, c'est tout. Et ne demandez pas mon nom, je ne vous le donnerai pas.
La prudence s'impose en effet. Un autre Chinois, Hong Xiaomin, a lui été arrêté cet été. Dans une lettre ouverte, il avait critiqué le président pour avoir imité le culte de la personnalité de Mao Zedong. Xi Jinping ou le mythe du nouvel empereur rouge, un grand reportage de Heike Schmidt et de Han Wovu. Réalisation Matthias Taylor.
Voilà donc l'excellent reportage d'Heike Schmidt consacré à Xi Jinping ou le mythe du nouvel empereur rouge. À suivre dans quelques instants, nous appellerons notre correspondant Alexander Seal à Londres où l'inflation est au plus haut depuis 2012. En fin d'émission, vous retrouverez également Franck Payanav et Stanislas Mirocha pour l'actualité des médias et l'actualité des nouvelles technologies. Mais avant cela, nous retrouvons Mickey Mons dans quelques secondes pour Controverse et l'affaire Harvey Weinstein ou la chronique d'un scandale planétaire.
Controverse.
Bonjour Mickey Monstre.
Bonjour.
Cette semaine, vous nous parlez d'une affaire et d'une affaire qui a fait beaucoup de bruit sur la scène médiatique.
Absolument ! Un dieu est tombé de l'Olympe et le fracas de sa chute n'a pas fini de se faire entendre. Harvey Weinstein, 65 ans, producteur légendaire aux multiples succès, cofondateur de Miramax, fait chevalier de la Légion d'honneur en mars 2012 par Nicolas Sarkozy. Bonne pioche, Nico. Un homme riche, puissant, couvert d'honneur, de gloire et d'argent. Un homme au-dessus de tout soupçon. Pas vraiment, non. Depuis des années, il y avait des rumeurs de choses bizarres, de pressions, d'attouchements ou même de viols dont certains auraient eu lieu il y a plus de 30 ans. Mais tout le monde se disait que cela ne pouvait venir que d'actrices en manque de talent et jalouses.
Alors, était-ce le cas ?
Non. Les choses ont pris un tour beaucoup plus vertigineuse pour le producteur à partir du jeudi 5 octobre. Le New York Times a publié un article qui détaille par le menu des dizaines d'années d'accusations d'harcèlement sexuel dont notre Apollon du 7e art serait l'auteur. Les actrices Rose McGowan, une des sœurs Halliwell dans Charmed, et Ashley Judd, une actrice de seconde zone de 49 ans, l'accusent de façon très précise. Il aurait demandé à ses femmes des massages et serait apparu nu devant elles en leur promettant des rôles de princesse des mille et une nuits si elles acceptaient de coucher avec lui. Un classique, même pas hollywoodien. Un homme de pouvoir joue de son pouvoir pour s'attirer les faveurs de femmes. Cela existe aussi dans d'obscures administrations ou deux grandes entreprises et cela porte le doux nom désuet de droit de cuissage. Un reliquat du Moyen-Âge.
Oui, alors s'est-il passé d'autres choses ?
Oui ! Ce même jeudi, Weinstein présente des excuses maladroites en demandant pardon, car il comprend qu'il a fait beaucoup de mal et se met en congé sine die pour travailler avec un thérapeute. Il pense certainement que cela suffira pour fermer le banc. Lourde erreur ! Cette phrase l'accuse et signe le début de la curée. Se pensant toujours Dieu, il envisage même d'attaquer le vilain fouille merde de New York Times. Après tout, c'est un dieu, non ? Et les dieux sont tout-puissants.
Et alors va-t-il les attaquer ?
Il n'en aura pas le temps. Vendredi 6 octobre, alors que notre divinité a dormi du sommeil du juste et se réveille tranquillement, Brie Larson, 28 ans, du film Kong, et Lena Dunham, 31 ans, actrice-productrice, en remettent une couche. En saluant le courage des actrices qui ont parlé, la société Weinstein fait un communiqué dans lequel elle annonce prendre les accusations très au sérieux, ce qui n'était pas le cas avant, charmant, et va mener sa propre enquête. Enfin !
On arrive le samedi 7 octobre.
Samedi 7, l'avocate de Weinstein décide d'arrêter de le défendre. Ça commence à sentir la poudre.
Dimanche 8.
Eh oui, même le jour du Seigneur, Weinstein est viré manu militari de sa propre boîte par le conseil d'administration, comme s'il ne savait rien et que jamais rien n'était arrivé à leurs oreilles.
Lundi 9 octobre.
L'actrice Romola apporte elle aussi sa petite pierre au début de lapidation en disant qu'elle s'était sentie violée quand à l'âge de 18 ans, il l'avait reçue en peignoir dans sa suite. Meryl Streep, une grande amie, Judi Dench, excellente actrice, et George Clooney, que nous connaissons tous, ont jugé son comportement inacceptable.
Oui, on arrive le mardi 10 octobre.
Je m'arrête là. Mais les témoignages vont continuer à s'empiler et à enterrer Harvey Weinstein sous un flot de comportements dégueulasses. Marlène Jobert, Léa Seydoux, côté français, vont aussi participer. Et sa femme va demander le divorce. Beaucoup d'histoires comme cela existent dans beaucoup de milieux. Cette histoire ressemble à s'y méprendre à la chute d'un autre dieu de la finance cette fois, en 2011, Dominique Strauss-Kahn. En moins violent, sans les menottes et la tête de lapin atteinte de myxomatose.
Et alors pourquoi finalement Harvey Weinstein a-t-il perdu dans cette affaire son immunité ?
Excellente question. Qu'un système corrompu dans lequel des femmes, jeunes ou moins jeunes, écartent les cuisses pour de l'argent et de la gloire, le lâche et l'offre en pâture aux féministes déchaînées, à la presse en délire et au bon peuple hilar, c'est qu'il doit y avoir quelque chose que nous ne saurons peut-être jamais.
Et pour conclure donc,
cette histoire a créé un effet d'aubaine pour tous ceux et celles qui veulent déstabiliser notre société, isoler les individus et rendre les rapports hétérosexuels encore plus difficiles. Comment approcher des femmes qui voient en un homme un violeur potentiel ? Pourquoi se mettre à la merci d'une femme qui, dans un moment d'égarement, aurait dit oui et qui, le matin venu, le regrettera et verra comme un échappatoire pour sa conscience de dénoncer son Don Juan d'une nuit avec qui et qui balancera son porc sur Twitter ? En attendant la Troisième Guerre mondiale, portez-vous bien et à la semaine prochaine.
Ici Londres.
Ici Londres et nous appelons tout de suite notre correspondant à Londres, Alexander Seal, comme chaque semaine dans C'est l'Info. Bonjour Alexander.
Bonjour Martin.
Aujourd'hui nous parlons économie. Le taux d'inflation a atteint 3% en septembre au Royaume-Uni, son niveau le plus élevé depuis avril 2012 selon les chiffres publiés par l'Office National de la Statistique. Une statistique justement conforme aux attentes des économistes et qui confirme le scénario d'une probable prochaine hausse des taux. Pourquoi une telle inflation, Alexander ?
Parce qu'il y a une incertitude après le Brexit, après la décision de quitter l'Union européenne le 23 juin 2016. Et donc, l'inflation a atteint 3% pour la première fois en 5 ans.
Et alors justement, cette inflation a une conséquence sur votre niveau de vie à Londres, Alexander ?
Bien sûr, bien évidemment. Parce que j'ai constaté dans les magasins que le prix des aliments, de la nourriture, par exemple le prix des loisirs, des livres et des jeux, par exemple, coûte plus cher qu'il y a peut-être 2 ans. Donc tout a augmenté ici en Angleterre. Je l'ai constaté dans les supermarchés très récemment.
Et alors justement, quelles sont les solutions envisagées par la Banque d'Angleterre et son gouverneur, visiblement anti-Brexit ?
Oui, donc la Banque d'Angleterre n'est pas aveugle à la situation. D'ailleurs, une porte-parole du Trésor britannique a dit qu'il comprend les familles qui ressentent les effets de cette inflation et il a dit que nous les aidons pour leurs dépenses courantes. Et aussi, bien sûr, le gouvernement britannique a rappelé avoir gelé les taxes sur l'essence, par exemple, augmenter les aides de prise en charge de la petite enfance, ou réduire l'impôt sur le revenu et augmenter le salaire minimum. Donc il y a une grande incertitude ici au Royaume-Uni. Et tous les hauts ténors de la finance britannique qui sont anti-Brexit, ils mettent la pression sur le gouvernement pour qu'il obtienne très très vite une transition post-Brexit afin d'entrer dans le gouffre, comme on dit.
Merci beaucoup Alexander Seal d'avoir répondu à nos questions. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle chronique d'ici Londres. À suivre l'actualité des médias et l'IT News.
L'actualité des médias.
Un œil sur les médias, toute l'actualité média de la semaine avec Franck. Franck, vous nous parlez cette semaine de M6 qui déprogramme une nouvelle émission. IT News, toute l'actualité des nouvelles technologies, Stanislas Mirocha. On commence par parler d'un robot aujourd'hui.
Et on n'arrête pas le progrès en 2017. Après le robot frigo qui vient directement à vous alors que vous êtes assis tranquillement sur le canapé, dont je vous ai parlé dans un numéro précédent de IT News qui est disponible en replay sur YouTube sur la chaîne de C'est l'Info par ailleurs, eh bien vous pourrez y rester assis plus longtemps dans votre canapé grâce à Effi. Vous ne le connaissez pas, mais il va devenir très vite indispensable pour vous. En effet, Effi est un robot qui repasse vos vêtements à votre place. Excite la corvée du repassage, ce robot de la taille d'une petite bibliothèque peut repasser 12 vêtements à la fois. En fait, vous disposez vos vêtements sur des cintres modulables en fonction de la taille du vêtement. Vous mettez les cintres sur une tringle qui dépasse du robot, et en fait, les vêtements vont passer dans le robot qui va les repasser. Puis, les vêtements vont ressortir de l'autre côté du robot. Mais ce n'est pas tout, car en plus de les repasser, Effi peut sécher vos vêtements, éliminer les mauvaises odeurs, mais aussi manipuler les vêtements délicats sans craindre qu'ils ne se déforment. Et petit gadget en plus, ce robot peut être commandé avec une application mobile et l'on peut aussi commander des parfums pour ses vêtements. Effi sera vendu aux alentours de 900$. Alors Martin, est-ce que vous allez l'acheter, Effi ?
Disons qu'à vrai dire, je préfère quand même économiser pour partir en voyage l'été prochain, par exemple.
Eh bien, ça tombe bien, car je vous emmène dans un endroit où personne n'est jamais allé et où peut-être personne n'ira jamais. Je vous emmène sur Cérès. Est-ce que vous savez où c'est ?
Non, absolument pas.
Alors Cérès, c'est la plus petite planète naine du système solaire. Elle est située à 413 690 250 km de la Terre. Donc autant dire en fait qu'elle est juste à côté. Et comment je vous y emmène ? Eh bien grâce à Google Maps. En effet, Google Maps offre désormais la possibilité d'observer d'autres planètes en ne bougeant pas de son navigateur internet. Ainsi, j'ai pu me balader tranquillement sur Mars, Pluton, Rhea ou encore dans la Station Spatiale Internationale. Et oui, j'ai le temps maintenant que je ne repasse plus. Ce qui est vraiment sympa, c'est que l'on peut voir des noms des différents cratères de chaque planète. C'est assez amusant, mais la qualité des images reste quand même perfectible. Mais en tout cas, c'est une très bonne initiative de la part de Google.
Et bien voilà. Merci beaucoup Stanislas Mirocha, c'était l'IT News, toute l'actualité des nouvelles technologies. On vous retrouve bien évidemment dans les prochaines émissions de C'est l'Info. À très vite.
C'est l'info, votre double page info du week-end, Martha Arnaud.
Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous et toutes de nous avoir suivis. Nous vous retrouvons bien évidemment la semaine prochaine, toute l'équipe, pour de nouvelles actualités. N'oubliez pas le site www.c-l'info.fr pour suivre en temps réel, au jour le jour, heure par heure, seconde par seconde, l'ensemble de l'actualité en France et à l'international. Et puis n'oubliez pas également que nous sommes sur Apple Podcast pour que vous puissiez nous écouter en replay à la demande sur vos appareils Apple. Nous vous retrouvons donc la semaine prochaine. Très belle semaine à tous et à très vite.